RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, c'est parti pour les GG pour les grandes gueules, content de vous retrouver. On va attaquer une semaine de discussion et de débat comme tous les jours de 9h à midi. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Une semaine de discussion tous les jours de 9h à midi en direct bien sûr avec Flora Guebali, l'entrepreneur de la transition écologique. Bonjour Flora.
Bonjour les GG.
Avec toi aujourd'hui Charles Consigny, l'avocat, bonjour maître. Et puis Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie, bonjour.
Ah bah, j'aurais espéré qu'il viendrait pas, mais bon, il est là. Oui. Jean-Loup Bonamy.
Oui, il parle de lui à la troisième personne maintenant.
Ça, oui, mais pour en dire du mal.
Oui.
Mais pour en dire du mal.
Il se dédouble en fait.
Exactement.
Édouard Philippe
et Mr Hyde.
Édouard Philippe peut-il être le seul à battre Jordan Bardella? Est-ce que ça devient le favori de la droite? C'est ce que disent les sondages. Je vous en parlerai avec nous tout à l'heure à
la
partir de 10h.
Le favori, oui, mais de la droite, ça, je ne vois pas en quoi Édouard Philippe est de droite, mais bon.
La compte sur salaire bientôt facilitée. Qu'est-ce que ça dit de notre pays? Ça dit, ça parle peut-être d'une France qui a du mal aujourd'hui à tenir tout le mois et on a besoin de diviser notre salaire, de demander des acomptes pour pouvoir tenir. Là encore, vous viendrez commenter ça au 32-16. Justement, la France en crise, les prémices d'une crise sociale, c'est peut-être ce qui se passe en ce moment sur les carburants et on va en discuter tout de suite. Si vous vous souvenez, vendredi dernier, on relayait leur appel au blocage. Eh bien, les blocages des routiers et des autocars, ça commence à partir d'aujourd'hui. Ça commence sur le périph', là, dans une heure, le périph' parisien.
Oui, ceux qui vont manifester et ralentir le périph' sont déjà rassemblés en ce moment sur une porte du périph' parisien. Et entre 10h et 11h, il y a quelques 110 cars et 70 camions qui vont prendre part à cette opération escargot. Ce sont des chauffeurs routiers d'autocars qui ne sont pas satisfaits des mesures qui ont été annoncées vendredi par le gouvernement. Une aide de 50 millions d'euros, c'est assez peu, c'est vrai, par rapport à ce qu'on a pu débourser il y a quelques années, pour aider les TPE, les PME dans le transport, une aide à la trésorerie largement insuffisante par rapport à ce que vivent effectivement les professionnels de la route, les particuliers dans leur ensemble, parce que là on parle des transporteurs, mais on peut parler aussi des aides-soignantes, des infirmières libérales, de tous ceux qui ont besoin de prendre la voiture pour se déplacer, pour aller travailler. D'autres actions de routiers sont prévues ces prochains jours, demain dans les Pays de Loire, mercredi en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'on est à l'aune d'un conflit social? Les sans-culottes, comme les appelle Gérald Darmanin, sont-ils de retour? On les appelait les gilets jaunes il y a quelques années. Est-ce que vous craignez cette colère sociale?
Est-ce que vous pourriez embrayer avec la crise de carburant? Est-ce que vous pourriez embrayer dans le mouvement des routiers? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules, Flora.
Bah, les sans-culottes, on les appelait les gilets jaunes. Et pour ceux qui ont bonne mémoire, avant, on les appelait les bonnets rouges. Qui se souvient de ça? C'était il y a à peu près
2013, 10
ans.
Décembre 2013.
Plus de 10 ans, pardon. 13 ans.
C'était contre l'écotaxe.
C'était contre l'écotaxe. Le problème, ce que je veux dire par là, c'est que des routiers en colère, ça fait des années que ça dure et c'est pas prêt de s'arrêter parce que comme vous l'avez peut-être remarqué, ils sont en colère parce qu'il y a une guerre, peut-être les prémices d'une guerre mondiale, en tout cas une guerre régionale sur laquelle on n'a pas vraiment la main. Donc à part faire des tweets ou des réunions diplomatiques pour dire qu'il faut que la guerre cesse, je vois pas très bien ce que peut la France à ces conflits-là. Il y a des crises de plus en plus régulières et de plus en plus fréquentes. On se rappelle, des gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine. Maintenant, c'est la guerre en Iran. On peut pas, à chaque crise, faire des chèques, puisque la politique du chèque, c'était celle d'Emmanuel Macron. Et on l'a vu, elle a vidé les caisses de l'État.
Donc le gouvernement n'a rien à se reprocher là-dessus.
Il y a un moment, je sais pas ce que le gouvernement a à se reprocher ou pas. Je dis juste qu'à un moment, on peut pas vider les caisses à chaque crise. D'autant que les crises, on l'observera tous, sont de plus en plus fréquentes. Et on a de moins en moins la main. Donc, la question qu'il faut vraiment poser, c'est comment on crée une économie qui est résiliente face aux crises. Et le problème, c'est que c'est pas ce qu'on est en train de faire. On est même en train de faire l'inverse. On va peut-être en parler. La désindustrialisation s'accélère. Donc, on était censé lutter contre. Bah, en fait, on a arrêté de lutter contre. Donc, on continue de fermer des usines. On continue de fermer ce qui nous reste de souveraineté française ou européenne. Ça va encore faire les Jean-Loup que je parle de souveraineté européenne, mais j'assume. Donc, aujourd'hui, on a un problème. C'est qu'on se retrouve dans une impasse. Et je comprends évidemment la colère des routiers, mais on va pas pouvoir la régler comme ça.
Jean-Loup.
Non, mais c'est une situation complexe puisque les caisses sont vides. Bon, simplement, moi, ce que je constate, c'est que dans le cas des routiers, il y a quand même quelque chose à voir. C'est que il n'y a pas que l'essence. L'essence, c'est en quelque sorte la goutte qui fait déborder le vase, qui met le feu aux poudres, mais ce n'est pas le seul problème. Et moi, je ne sais pas vraiment, vu que les caisses sont vides, ce que le gouvernement peut faire sur le problème du prix à la pompe. Et d'ailleurs... Peut-être même qu'à la place de Monsieur Lecornu, en fait, eh bien, je ne ferai rien sur ce sujet. Mais par contre, il y a d'autres sujets d'agacement chez les chauffeurs routiers qui prennent la profession à la gorge et sur lesquels le gouvernement pourrait agir. Je pense notamment à la concurrence étrangère, déloyale. Enfin, tu vois, il y a quand même un certain nombre d'endroits où, en France, dans les stations de route nationale, tu peux acheter, par exemple, c'est un peu curieux, des acras de morue. Et tu sais pourquoi ? Eh ben parce qu'en fait c'est peuplé de camionneurs portugais. Voilà, qui traversent le pays. La France est une zone qu'on traverse, alors ça défonce nos routes, ça fait de la concurrence déloyale pour nos chauffeurs routiers et qui traversent le pays pour aller du Portugal jusqu'en Allemagne, d'Allemagne jusqu'au Portugal. Et donc tu as une concurrence déloyale d'une part Espagne-Portugal, d'autre part pays d'Europe centrale et orientale, hein, tous les pays d'Europe de l'Est, polonais, bulgares. Enfin, promène-toi sur une route nationale et tu vas voir le nombre de camions immatriculés dans les pays de l'Est. C'est absolument hallucinant. Et ça, c'est une concurrence déloyale contre laquelle là le gouvernement peut faire quelque chose et ça ne nous coûterait rien. Donc en fait il y a plein de sujets sans agir sur le prix à la pompe.
Est-ce que ça ferait baisser le prix à la pompe ?
Non, alors non, ça ne ferait pas baisser le prix à la pompe.
Ce qui peut faire baisser le prix à la pompe, c'est la baisse des taxes.
Ok, ben je ne sais pas si c'est toi qui n'as pas compris ou si c'est moi qui n'ai pas été assez clair. Je te dis qu'on ne peut pas agir sur le prix à la pompe, mais que par contre, il y a d'autres choses qui agacent et qui prennent à la gorge et qui étouffent la profession et sur lesquelles, là, le gouvernement peut agir.
Charles.
Oui, mais il n'y a pas que les chauffeurs routiers.
Ah oui,
il y a beaucoup de gens qui trouvent l'essence trop chère. La situation me paraît assez simple. Le gouvernement a joyeusement engagé des dépenses considérables pour faire passer son budget. Ce budget n'avait d'autre but que de permettre au Parti Socialiste de faire 3 interviews pour dire c'est nous qui avons gagné et justifier le fait qu'ils ne censuraient pas. Pourquoi ne censuraient-ils pas ? Parce qu'ils avaient peur de perdre leur siège à l'Assemblée nationale. Et le bloc central qui est aujourd'hui en train de s'agglutiner derrière un candidat unique comme sur le radeau de la Méduse, s'est agglutiné derrière Lecornu comme sur le radeau de la Méduse. Et donc nous coulons avec le bloc central. C'est ça qui se passe. Donc ils n'ont plus de marge de manœuvre pour éventuellement faire quelque chose sur le prix de l'essence. C'est là qu'on voit que quand on dépense l'argent pour des choses qui ne sont pas indispensables, notamment par exemple quand on revient sur cette réforme des retraites qui était à mon sens un ajustement technique qui aurait dû passer comme une lettre à la poste, et ben après quand souffle la tempête, par gros temps on n'a plus d'argent. Donc ça c'est un premier élément.
Donc manque de marge de manœuvre, contrairement à d'autres pays comme l'Italie ou l'Espagne qui ont fait des aides beaucoup plus importantes.
Exactement, parce qu'ils ont dilapidé l'argent public pour des raisons politiciennes. C'est ça qui est quand même terrible. Faut que les Français l'entendent, ça le voient. Ensuite, moi, je prends toujours le pari que la crise en Iran va se calmer. On entend plusieurs messages contradictoires de ce côté-là. Certains pressentent une invasion terrestre américaine. Je ne sais pas. J'ai vu Laurent Saïm qui tweetait un courrier reçu par de nombreux Marines aux États-Unis qui s'appelle « Boots on the ground », c'est-à-dire « Préparez-vous à débarquer ». Je n'en sais rien. Si la crise iranienne se termine avant l'été, l'histoire de l'essence va se calmer aussi avant l'été et il n'y aura pas besoin de dépenser des dizaines de milliards d'euros d'argent public. Toute la question, c'est combien de temps ça dure.
Oui, enfin, avant l'été, c'est long pour notamment les routiers. Avant l'été, ça fait 4 mois difficiles. Donc 4
pas
mois
seulement
difficiles.
Les routiers. Hein,
pas seulement, oui. Les aides-soignantes,
les ambulanciers,
tout ce qui est infirmière libérale, tout ce qui est profession libérale du soin, qui se déplacent, tout ça, 4 mois, ça laisse le temps à des gens de mettre la clé sous la porte.
Mais est-ce que ce sont les prémices d'une crise sociale? Parce que la question posée, elle est là. Ça fait maintenant, cette guerre a démarré. mais les Français ne bougent pas. Alors, est-ce que c'est parce que les Français sont apathiques et ils se disent, de toute façon, ça sert à rien. Moi, mon quotidien, c'est plutôt d'aller bosser, de me débrouiller. Et la colère, en fait, ne prend pas parce que t'es trop pris par ton boulot du quotidien, ou au contraire, les routiers qui commencent, ça peut être le début, et derrière, les Français peuvent embrayer. C'est ça la question. Allez. On a Rodolphe qui veut en parler avec nous. Il est chef d'entreprise dans le bâtiment du côté du Morbihan. Bonjour Rodolphe.
Bonjour les GG.
Bonjour. Comment ça vous impacte, vous, aujourd'hui, les carburants ?
Ah bah c'est un massacre. C'est un massacre. Moi, il y a un mois, pour tout vous dire, j'étais à 130 euros le plein sur mon camion. Je suis passé à 200. Voilà. C'est clair, en un mois.
Vous avez pris plus de 50%, ouais.
Ah ben ouais, parce que on est passé donc dans le Morbihan, on avait 1,60€ le gasoil, parce qu'on a une raffinerie qui est pas très loin, qui est du côté de Nantes, et donc on payait pas trop cher par rapport au reste des autres agglomérations ou en France. Mais le problème, c'est qu'on a un État qui est complètement, mais c'est ce qu'il disait Charles Consigny, c'est qu'il a plus aucune marge de manœuvre, parce qu'ils ont fait des cadeaux à tout le monde, à n'importe qui, n'importe comment, et n'importe quoi. On continue de balancer du pognon à l'Ukraine, alors que il y a une guerre là-bas, mais à un moment donné, on donne ce qu'on peut donner. Mais
enfin, c'est pas nous qui donnons le plus à l'Ukraine, contrairement à une idée reçue.
Rodolphe a tout à fait raison.
Contrairement à une idée reçue, parce qu'il faut l'attendre, cette idée reçue, c'est que sincèrement, la France n'est pas dans le top 5 des pays qui
ont
le
plus d'argent. Quand même,
Attendez, Olivier, j'entends ce que vous dites, et c'est pas ce que je viens de dire. Je suis pas en train de dire que c'est nous qui nous donnons le plus. Il faut pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit juste que on donne ce qu'on peut donner, et là, on peut plus donner. Les Français, ils ont besoin de respirer. Voilà, donc c'est l'électricité qui augmente sur les entreprises, on se fait massacrer. Le gaz, j'en parle même pas. Maintenant, c'est le carburant, c'est les prix des matériaux, personne n'en parle, mais ça explose à nouveau, entre l'aluminium qui vient des États-Unis, entre tout le plastique, etc., qui est lié au pétrole, etc. Donc pour l'instant, on parle pas trop des artisans. Mais là, je vous dis honnêtement, nous, si on monte au créneau, ça va faire mal.
Mais Rodolphe,
on les connaît.
Ouais. Le gouvernement annonce une mesure pour les gros rouleurs, peut-être annoncée cette semaine.
Mais on prend les gros rouleurs, on prend les routiers, on prend les autocars, on prend pas les artisans. Moi j'ai deux camions. Donc deux camions, ça me fait 200 euros, ça fait 400 euros par semaine. Et par semaine. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors on dit aux clients, sur les chantiers, sur les devis, on dit, écoutez, faut participer, mais les clients, ils peuvent plus. Ils peuvent plus parce que eux non plus, ils y arrivent plus. Donc en fait, on a un État qui a pas fait les réformes nécessaires. On a un État qui fait des cadeaux. Sur la réforme des retraites, super. Alors on a fait plaisir à tout le monde, mais sauf qu'on n'a pas pris en compte la situation économique. Ensuite, on a 1200 agences qui nous coûtent des milliards. Personne n'a fait de réforme. Elle est où la réforme de l'État ? Il est où l'État obèse qui devait faire des économies ? Il n'y a personne qui a fait ça. Donc aujourd'hui, toutes les marges de manœuvre qu'on aurait pu avoir, on n'en a plus. On a M. Macron, il est complètement...
Rodolphe, est-ce que pour vous, dans votre activité, ça l'a ralenti ? Est-ce que vous pourriez même licencier du monde ou vous séparer d'employés ou pas ?
Clairement oui, sans extrapoler, sans noircir le tableau, mais clairement oui. Là, depuis le 1er janvier, avec le retard du vote du budget, etc., nous, le bâtiment, c'est moins 30% déjà. Boum ! Déjà, depuis le 1er janvier. Et personne n'en parle. Alors, je veux bien qu'il y ait plein de sujets sur la table, etc., il n'y a pas de problème. Mais ce problème, c'est que quand on dit toujours le bâtiment va, c'est que tout va bien. Mais si le bâtiment va mal, ça va s'écrouler. L'année dernière, ça a dégommé fort au niveau des défaillances d'entreprises dans le bâtiment. Et là, on va continuer. On demande juste une chose, c'est baisser les charges, baisser les taxes de manière à ce que...
Oui, mais ça, le problème, c'est que... Si vous baissez les taxes, il faut compenser. Oui, mais il faut compenser. C'est-à-dire et aujourd'hui, l'État n'a pas les moyens. Alors, il pourrait effectivement diminuer les dépenses, mais ça n'a pas été l'objectif numéro un du dernier budget.
J'entends Olivier, mais qu'est-ce qui va se passer de facto? Quand on baisse les taxes et qu'on baisse un peu les charges, qu'est-ce qui se passe? On relance la consommation. La consommation, c'est de la TVA. Ça rentre immédiatement dans les caisses. C'est tout de suite. Si on lâche un peu la bride aux entreprises, mais on va embaucher, on va consommer, on va dépenser, et tout ça, ça rentre dans les caisses de l'État et ça relance l'économie. On a besoin de relancer l'économie. Il faut remettre les gens au travail, mais il faut surtout baisser les taxes. On a un État qui est obèse, mais c'est pas possible. C'est plus des gourmands, c'est du racket.
En plus aujourd'hui toutes les matières que vous utilisez dans le bâtiment, tout a augmenté en plus aujourd'hui, Rodolphe.
Là, j'ai fait un devis pour un client sur du béton. Non, mais sans déconner, le béton, il a doublé. C'est du béton. C'est, enfin, je veux dire, faut arrêter, quoi. C'est des cailloux dedans avec.
Donc aujourd'hui, c'est à dire que les travaux vont ralentir. Enfin, les commandes vont ralentir.
C'est ça, ouais.
Ah ben là, j'ai un devis moi qui était refusé avec un architecte. Pourquoi ? Parce qu'on passait plus. On passait pas dans le budget. Mais on a tiré le devis au maximum. Mais à un moment donné, on n'y arrive plus. On n'arrive plus parce que un, les matériaux, on peut pas trop tricher. Alors ok, on a des remises professionnelles, on en fait bénéficier aux clients, on négocie, on passe notre temps à négocier. Mais à un moment donné, le client quand il vient payer le devis, la facture finale, et il dit bah non, je suis désolé, mais j'y arrive plus, moi je peux plus.
Mais Rodolphe, devis, il passe à la trappe. Rodolphe, je vous remercie d'avoir été avec
Merci
nous. Rodolphe
vous.
Du Morbihan, vous avez entendu l'exposé fait par Rodolphe, chef d'entreprise dans le bâtiment, qui montre que le secteur, combien son secteur et son entreprise est impacté aujourd'hui par toutes les hausses. En fait, ce sont des hausses globales, que ce soit les hausses du carburant pour lui, qui mettent son entreprise en difficulté, la hausse des matières qu'il achète,
la hausse de l'électricité,
la hausse des coûts du chantier. Là, on revient à l'Europe.
Et le ralentissement de l'économie.
Non, mais c'est parce que je te vois venir.
Non, le lance pas là-dessus.
Nous sommes avec Nassim, qui est étudiant du côté de l'Essonne. Bonjour, Nassim.
Bonjour à tous.
Salut Nassim. Vous avez fait le plein de quoi ? Du scooter ? De quoi, Nassim ?
Non, de la voiture. J'ai une petite voiture. Alors, pour juste mettre les choses au clair, j'ai une petite voiture, une Toyota Aygo. Donc, oui. Je payais il y a encore 2-3 semaines 55 euros pour un plein. Et là, ce matin, j'ai payé quasiment, 78 euros quasiment. Donc, ça devient tellement.
Vous roulez beaucoup ?
Bah, je roule, j'ai pas trop le choix, en fait, parce que je suis étudiant, donc j'ai la fac, j'ai mon emploi étudiant à côté parce que voilà, j'ai un logement. C'est devenu tellement insupportable que je fais des, au black, excusez-moi de le dire, des livraisons pour des restaurants. Parce que si je ne le fais pas, bah, forcément, je paye pas mon loyer, je me nourris pas, donc voilà, et moi, je vous dis honnêtement, je n'ose pas demander de l'argent à mes parents, pour qui, voilà, ça, c'est déjà plus ou moins compliqué, quoi.
Vous tenez combien de temps avec un plein?
Avec un plein, si vraiment je roule le strict minimum, on va dire, allez, 10 jours peut-être, maximum.
Okay.
Donc, et moi, je vous dis honnêtement, ce qu'a dit Charles, vraiment, je bois ses paroles, mais d'une façon, mais il a totalement raison. On veut faire plaisir à tout le monde, tout le temps.
Ouais.
Mais à un moment donné, je ne sais pas, diriger, c'est prévoir. Quand on pêche dans la, enfin, on prend à chaque fois pour donner. Il y a un moment donné, bah, forcément, il y a un trou dans la caisse. Vous voyez les difficultés qu'on a aujourd'hui, parce que moi, je veux bien, excusez-moi, je n'ai rien contre eux. Je veux bien, on parle des retraites à chaque fois. Mais il y a un moment donné, les retraites, c'est une obligation. On vit plus longtemps. Je sais pas, je suis étudiant. Moi, si demain, on me dit, voilà, tu vas devoir travailler jusqu'à 66, voire même 67 ans. Mais il n'y a pas de problème si je suis en bonne santé. Je vise des boulots qui sont, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais de bureaucratie. Voilà, c'est les bureaux que je vise plus tard avec mes études. Si je peux aller jusqu'à 67 ans, si la santé me permet, mais j'irai même jusqu'à 70 ans. C'est quoi ce pays d'assister ? Il y a des gens, excusez-moi, je suis désolé d'être énervé comme ça et de réagir comme ça. J'en connais personnellement, je ne dirai pas leur nom. Mais qui
si, on va donner
glandeurs.
Leur nom, alors allez-y.
Non, mais c'est des glandeurs, excusez-moi du terme, c'est des glandeurs. Des qui restent chez eux du matin au soir, je les vois le matin au café à 8h pendant que moi, excusez-moi du terme, mais je me casse les fesses à aller travailler pour payer mon logement étudiant, je me débrouille, je me casse la tête comme je peux. Attendez, c'est quoi ce pays d'assister au bout d'un moment? Et c'est pour ça que moi, je vous le dis honnêtement, je le dis, j'ai aucun problème, je finis mes études cette année. Moi, de novembre, je me casse, je prends mes clics et mes claques. Ah, bah, moi, en fait, là, si vous voulez, j'ai prévu de faire un VIE, je veux devenir ingénieur d'affaires international.
Mais elle est à Dubaï. Mais il paraît qu'il fait bon vivre en ce moment.
Non, ça m'intéresse pas. Je vous dis honnêtement, ça m'intéresse pas.
Vous
moi,
allez
je
où
pense aller dans un pays. Bah, je vous dis honnêtement, j'hésite entre plusieurs. J'ai l'Australie qui m'a proposé pour des postes équivalents. J'ai les États-Unis qui m'ont proposé, le Canada et l'Angleterre. Mais je ne reste pas ici. Attendez, c'est quoi ce pays?
Bah, c'est dommage parce que si vous, si des gens comme Nassim qui sont
travaillent,
éduqués, formés. Ingénieurs qui ont envie de travailler et qui nous expliquent que c'est plus possible, je me barre. On va se retrouver effectivement entre gens qui ne foutent rien, qui n'ont pas fait d'études.
On y est déjà.
Et je sais pas comment on va financer notre système.
On y est déjà. Enfin, Nassim, j'attends de voir aux États-Unis dans quelle forme vous serez. J'ai rencontré quelqu'un qui travaillait. Je vais juste finir ma phrase, si vous voulez bien. J'ai rencontré quelqu'un la semaine dernière qui avait passé 10 ans aux États-Unis et qui me disait je n'en pouvais plus d'épargner, d'économiser pour ma retraite, mes assurances, mes mon assurance maladie, l'école de mes enfants. Et en fait, j'étais tellement à la gorge que je suis rentrée parce que je ne pouvais plus. Et c'était quelqu'un qui était avocat, donc c'était pas.
Tu connais beaucoup de jeunes Américains qui disent tiens, moi, plus tard, quand j'aurai fini mes études, j'irai travailler en France. J'en connais pas. En revanche, je connais beaucoup d'Américains qui veulent faire du tourisme en France parce que la France, ça fait rêver, Paris, etc. Mais c'est marrant, on voit très peu de jeunes Américains appeler des radios américaines en disant
c'est pas vrai.
Je rêve d'aller travailler en France, il y a une dynamisme.
Allez voir dans les hôpitaux, on a des médecins du monde entier qui choisissent la France pour la recherche.
Des gens qui vivent dans des pays plus compliqués que le nôtre.
Nassim, je vous remercie d'avoir été avec nous. Le coup de gueule de Nassim, ingénieur, qui voudrait que la France se remette au travail. Nassim, dans un instant, on sera avec Nicolas. Nicolas, il est du côté des Pyrénées-Atlantiques. Il est assureur. Et donc, Pyrénées-Atlantiques, vous voyez la carte de France. Qu'est-ce qu'il y a juste à côté des Pyrénées-Atlantiques? Il y a
l'Espagne.
L'Espagne, voilà. Et justement, Nicolas, ce qu'il voit, ce sont les Français qui vont faire leur plein en Espagne. Alors, le blocage des routiers, est-ce que ça peut être le prémisse d'une crise sociale aujourd'hui dans le pays autour du carburant? C'est au 32-16 qu'on continue d'en discuter avec vous. Merci à Nassim d'avoir été des nôtres. Il est 9h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
On continue de s'interroger avec vous sur ce climat-là qui existe en France depuis que la guerre au Moyen-Orient a commencé, que la hausse des carburants et de l'énergie est partie. Et comment le pays tient aujourd'hui? Là, ce sont les routiers, les transports scolaires qui entrent dans la danse. On avait l'appel vendredi des transporteurs routiers aux opérations escargot. Ça se met en place là à 10h. Ça va se mettre en place sur le périphérique parisien. Ça commence sur le périphérique parisien. Et puis ensuite, ce sont des opérations perlées, hein, des opérations escargot. C'est pas des blocages. Ça va continuer demain et après-demain à travers le pays parce que les mesures annoncées par le gouvernement sont jugées insuffisantes. Mais est-ce qu'on est sur les prémices d'une crise sociale? Oui ou non? On était étonné de savoir, de comprendre pourquoi ça ne prend pas, alors que finalement, pour les Gilets jaunes, c'était vraiment monté et parti d'un coup. Alors, ça avait pris au cœur de l'été.
Alors, les Gilets jaunes.
Et c'était monté tout doucement pour éclater en septembre.
Oui, mais les Gilets jaunes, on pouvait tenir le gouvernement comme premier responsable, puisque c'était à la fois le 80 km/h, donc c'était Édouard Philippe, et c'était la taxe carbone. C'était une décision d'ailleurs européenne, et qu'il fallait appliquer, qui faisait monter le prix à la pompe. Là, les gens ont bien compris que c'est la guerre au Moyen-Orient, et que malheureusement, on n'est pas producteur de pétrole, donc on dépend du cours, du marché du pétrole. Je crois que le baril est repassé au-dessus des 100 dollars cette semaine. Je pense que la perspective d'une intervention au sol américaine, ça ne rassure pas les marchés parce que ça veut dire que ça va durer plus longtemps que prévu. C'est ça. Après, là où il y a quand même une question, c'est que moi je regarde ce qui se passe en Espagne ou en Italie. Alors c'est des plans qui coûtent cher, hein. C'est plusieurs millions, voire plusieurs milliards d'euros sur la table. Mais on aide davantage les automobilistes parce qu'en Espagne, il y a de la croissance. Ils ont fait des réformes, ils ont de l'argent. En Italie également, ça va un peu mieux. Donc il y a quand même une pression de certains partis comme le RN qui disent le RN dit il faut baisser la TVA. Alors est-ce qu'il faut baisser les taxes? Est-ce qu'il faut faire des chèques à ceux qui utilisent leur voiture tous les jours? Enfin voilà, ça va revenir sur la table, vous allez voir cette semaine, ça va être le débat.
On a Nicolas qui est du côté des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour à tous.
Je disais, vous avez l'exemple espagnol juste en face de vous, quoi, en fait.
Ah ben, tous les jours, enfin voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui ont la chance, parce que c'est une chance d'habiter à côté et de pouvoir aller faire le plein en Espagne. Il y a toujours une différence, hein, mais là, elle est encore plus accentuée, c'est vrai. J'ai regardé un petit peu, là, en vous attendant, donc le prix du carburant ce matin. En Espagne, 1,71 le litre de gasoil, et chez moi, à la station Intermarché, 2,35.
Ah ouais, 1,71 d'un côté, 2,35 de l'autre.
Exactement.
Pour le même produit, hein, parce que l'Espagne n'est pas non plus producteur de pétrole, hein. Comme nous, les Espagnols.
C'est exactement ce que je voulais dire quand j'entendais Flora tout à l'heure dire c'est la faute de la guerre. Non, l'Espagne n'a pas, je pense, une filière d'approvisionnement magique. C'est pas non plus un pays producteur. Le litre de gasoil, c'est le même. Le problème, c'est bien les taxes. C'est les taxes. Donc quand on prend 60% de taxes sur un litre de gasoil et qu'en plus on se rajoute une nouvelle taxe là pour je ne sais quelle traçabilité de l'essence obscure, etc., ben, le problème c'est ça. C'est ce pays qui est incapable de faire la moindre réformette et qui nous assomme de taxes et d'impôts divers et variés dans tous les sens. Donc voilà, c'est je pense que la colère est là. Alors, ça prend pas pour l'instant parce que on se fait un peu endormir sur le fait justement que ça soit la guerre. Oui, l'élément déclencheur c'est la guerre de l'augmentation des carburants, mais le problème récurrent et de fond, c'est bien les taxes et les impôts qui nous assomment et qui nous empêchent de vivre dignement de nos salaires dans ce pays.
C'est 60 centimes quand même de différence entre le gasoil espagnol et français, c'est énorme.
C'est énorme.
Toi qui parles de l'Europe tout le temps, là on voit bien qu'il y a deux pays en Europe non producteurs de pétrole et de diesel qui pourtant ne pratiquent pas les mêmes tarifs.
Alors, je suis bien d'accord, mais j'ai jamais parlé de l'Europe sur la question du pétrole, j'en ai parlé sur la question de l'électricité. D'ailleurs, c'est très bien, tu remarqueras que l'Espagne a quitté le marché européen de l'électricité. Bientôt, il n'y aura plus que la France. Ça sera le dernier et le seul membre de ce marché mortifère qui fait flamber les cours de l'électricité. Mais en ce qui concerne le pétrole, moi, je vais te donner un autre chiffre. Ce chiffre, c'est 65. 65, c'est l'âge du départ à la retraite en Espagne, depuis assez longtemps d'ailleurs. Donc en fait, tu ne peux pas, comme le disait Charles, tu ne peux pas tout avoir. Et c'est ça qui me dérange un peu dans ces opérations escargots, c'est que dans ces opérations escargots, t'as des gens très bien comme nos auditeurs Rodolphe, qui était chef d'entreprise dans le Morbihan, ou Nassim qui nous appelait, qui eux justement sont pour mettre l'âge de la retraite plus tard. Donc là, c'est très bien, ils ont une vision cohérente. Ils veulent baisser le prix à la pompe et en même temps faire les réformes qui sont nécessaires. Mais je suis sûr que parmi les gens qui se plaignent aujourd'hui, tu as des gens qui sont très contents de partir à la retraite à 62 ans.
Un chauffeur routier, tu veux le faire travailler jusqu'à 65 ans.
Tu as des gens qui sont très contents de partir à la retraite. Oui, mais tu ne peux pas tout avoir.
Bah, moi, je suis désolé, mais le chauffeur routier, toi, t'es prof de philo, je pense que tu peux bosser jusqu'à 65 ans, voire 70. Je pense qu'un chauffeur routier, tu vas pas le faire conduire jusqu'à 65 ans. Non, mais... Il va être cassé, il aura mal au dos, c'est des métiers quand même pénibles, avec des horaires décalés. C'est là où la réforme des retraites était injuste, parce
que elle
demandait à tout le monde de travailler plus.
Il y a plein de gens qui se plaignent du prix à la pompe, et en même temps, qui se réjouissent des avantages qu'on finance, justement, et qui plombent la caisse, en fait. C'est ça un peu le problème. Et je tiens quand même à préciser un peu, on a eu sur ce plateau un exemple du mal français, parce que le mal français, avant d'être dans les caisses, il est dans les têtes, il est dans les mentalités, il est culturel. C'est, on a un auditeur, Nassim, qui est étudiant, qui bosse, qui est pris à la gorge, et t'as Flora qui lui fait la leçon en disant, oh bah oui, il faut aller à Dubaï, ou alors, ah oui, mais non, quand même...
Elle ironisait.
La leçon.
Tu remarques qu'à chaque fois
qui sont partis à Dubaï,
qu'il y a un mec qui bosse et qui se plaint, il est immédiatement dézingué.
Oui, parce que j'ai hâte de voir, il n'est pas immédiatement dézingué, j'ai hâte de voir comment cette personne se sentirait à l'étranger. Comme si, j'en ai marre qu'on idéalise tous les pays du monde à l'exception de la France, comme si la vie est belle. Regardez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Il y a des pauvres personnes qui étaient propriétaires de leur logement, qui doivent vendre leur logement pour payer tous leurs crédits, ils vivent tous à crédit, puis rester locataires de leur logement parce qu'il y a des foncières qui font des razzias sur des villes entières en rachetant à bas coût tous les logements. Il y a une crise du logement aux États-Unis, il faut la regarder. Non, mais lisez un peu des papiers dessus, vous verrez que la situation n'est pas évidente. Donc, moi, je veux bien qu'on dise que la France est pourrie.
Je
parlais de Dubaï avec ironie parce qu'on a vu récemment les personnes qui se sont exilées à Dubaï crier au secours à la France pour que la France.
Je
vais juste terminer pour que la France les récupère parce qu'à Dubaï, pour info, il n'y a aucun dispositif anti-guerre parce qu'ils n'ont jamais vécu de guerre. Bon, je ne dis pas que la France est un pays.
Il y a un léger dôme anti-missile.
Je dis pas. C'est quand même vachement tombé. Ouais. Au début, les personnes à Dubaï étaient quand même en détresse.
Oui, mais enfin,
je dis pas que la France est un paradis.
Ils arrêtent plusieurs centaines de drones par jour.
Je dis pas que la France est un paradis absolu. La France est face à de nombreux défis et problèmes. Juste, la France n'est pas non plus un enfer absolu. On a de la chance d'être dans ce pays où on a une carte vitale. Oui, c'est une religion, la carte vitale.
Ça
s'appelle la République française. Moi, personnellement, j'y adhère.
Attention. Je remercie Nicolas. On va écouter Nathalie, qui est du côté de la Corrèze. Elle est infirmière libérale. Ah, Nathalie, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Nathalie. Parce que vous roulez. Est-ce que vous triez vos malades en fonction de la distance à parcourir ou pas?
Alors là, je les ai pas triés, mais par contre, je prends plus rien. Quand j'ai des appels de l'hôpital ou des gens pour des prises de sang, si c'est pas sur le secteur que je fais, je ne prends pas. Et pourtant, j'ai une hybride. Ben, ça fait mal. J'ai fait le plein il y a 2 jours, 128 euros. et je payais il y a au début du mois, je payais 80 euros. Donc la différence, elle y est. Hein. Et là, je vois sur le plateau, ça se désertifie, c'est-à-dire qu'on trouve plus de remplaçants. Voilà, parce qu'ils se rendent compte que c'est plus viable. Nous, depuis 2009, nos actes n'ont pas été revalorisés. Et puis, je pense pas qu'à nous. Hein. Il y a aussi les taxis qui font du transport de malades. Les aides ménagères. Il y a tout le monde pris. Hein.
Surtout
tout
qu'en plus, vos tarifs sont fixés par le gouvernement. Ça ne bouge pas, quoi.
Il n'y a rien qui bouge. Ben, par exemple, pour une prise de sang, c'est 7,78 €. Donc, vous enlevez 60% de charge. Plus 20% de TVA ou de 20% je suis gentille, c'est 1,20 € le litre. Hein. Donc vous enlevez 1,20 € le litre, ben ça c'est plus rentable. C'est
Donc du coup là aujourd'hui à la fin du mois, qu'est-ce qu'il y a, vous sentez que vous perdez de l'argent?
Quand j'ai commencé à travailler en tant qu'infirmière libérale, et j'ai 14 ans de recul. Hein. Donc quand j'ai commencé à travailler, je me mettais 3 000 à 3 500 € sur le compte. Je suis plus qu'à 2 500. Je suis plus qu'à 2 500 et je m'en sors pas.
Donc, plus vous travaillez, moins vous gagnez votre vie, en fait.
Ben, c'est ça. Et tout le monde fait le même constat. On est plusieurs cabinets. Les remplaçants, c'est introuvable. Parce qu'au bout de 6 mois, elles se rendent compte. Et des fois, même c'est au bout de 2 jours, quoi. Elles me disent, non, c'est pas rentable. Hein. C'est pas, moi, je vous dis, je fais 210 km par jour. Donc, faites le calcul. Combien de kilomètres par mois, combien de kilomètres par an. Et pourtant, je vous dis, j'ai une hybride. Donc, j'imagine celles qui n'ont pas des hybrides. C'est catastrophique, quoi.
Est-ce que vous pensez justement à passer à l'électrique, 100% électrique?
Mais je ne peux pas. Comment je fais?
Oui, ça...
Comment je fais, moi? Moi, si j'ai une urgence la nuit, que ma batterie n'est pas rechargée, faut...
Vous la rechargez chez vous.
Si vous avez une urgence la nuit et que vous n'avez pas d'essence, c'est le même problème.
Oui, enfin, sauf que recharger une batterie, ça prend beaucoup plus de temps.
Oui, mais chez toi, tu recharges.
Il n'y a pas de pénurie de
Nathalie. Oui, enfin, ça s'appelle anticiper un peu.
Nathalie est son exemple en tant qu'infirmière libérale qui aura conclu notre discussion. Merci, Nathalie, d'avoir été vous aussi dans les GG. Bonne journée, Nathalie.
Bonne journée.
Au revoir. À bientôt pour de nouvelles discussions. Nathalie qui disait, ça devient critique. Elle perd 500 € par mois, là. Blocage des routiers. Est-ce que pour vous, c'est le prémisse d'une guerre sociale ou le prémisse d'une crise sociale, pardon. Vous dites oui à 78%. Alors qu'on vient de parler justement, j'ai plein d'essence, 120 000 euros à gagner. 100 000 euros pour vous, 20 000 euros pour la personne de votre choix. Et c'est demain. C'est demain le tirage au sort. C'est demain le D-Day où on gagne 120 000 euros. Mais vous pouvez encore vous inscrire en envoyant RMC par SMS au 732-16. RMC par SMS au 732-16. Les 120 000 euros pour vous, 100 000 pour vous, 20 000 pour la personne de votre choix. Ça en fait quelques-uns des pleins d'essence. Ça peut permettre d'avoir un acompte pour un appartement, pour se lancer dans la vie.
La question de savoir à qui tu donnes les 20 000.
Monter ton entreprise. Les 20 000 euros sera pour une personne qu'on appellera. Vous direz, appelez cette personne. Et il faudra que ce soit un auditeur d'RMC, bien évidemment.
Ça va vraiment créer des brouilles. Hein.
Allez, 10h-20.
Dans la famille, chez les amis, oui.
Dans un instant, le on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4. Tu vois, c'est 20 minutes. Les GG, les grandes gueules avec vous, bien évidemment, tous les jours sur RMC, RMC Story, il est 10h-15, ce qui veut dire qu'il vous reste 5 minutes pour jouer, 5 minutes pour envoyer RMC par SMS au 732-16, 5 minutes pour faire partie de ceux qui seront tirés au sort pour gagner 120 000 euros demain, 100 000 euros pour vous, 20 000 euros pour la personne de votre choix. On aura un gagnant demain, bien évidemment, puisque c'est le jour J, demain, mardi 31 mars, pour gagner les 120 000 euros. Allez-y, inscrivez-vous. C'est simple comme un SMS, c'est simple comme un coup de chance demain. Charles Consigny, Flora Guébali, Jean-Loup Bonamy, voilà nos trois grandes gueules. Il est 10h-15. C'est l'heure du on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Louis Gerbier.
Salut Alain, salut les GG, bonjour à tous. 36 adjoints à la mairie de Paris, dont un à l'outre-mer. On s'en fout, on s'en fout pas, Flora.
On s'en fout pas.
Charles.
On ne s'en fout pas.
Et Jean-Loup.
On ne s'en fout pas.
Lamia El Haraj a donc été élue première adjointe, l'ancienne adjointe d'Anne Hidalgo à l'urbanisme, c'est ça ? Ouais, c'est ça, excusez-moi. L'écologiste Anne-Claire Bou hérite d'une délégation sensible, le périscolaire, qui va être très scruté en ce moment. Audrey Poulvar, elle, ça sera les relations internationales. L'ancienne journaliste avant était à l'agriculture. L'agriculture, c'est le mot a disparu. Enfin, Laurent Sorel à l'outre-mer et puis Jacques Baudrier à la Varap. Ouais, celle-là, elle est nulle.
Il n'y a que moi qui ris.
Ouais, mais ça m'a suffi.
J'aime beaucoup, moi, l'adjoint à la Varap, j'adore.
Charles.
De toute façon, on est parti pour 7 ans, donc moi, je lâche l'affaire, si vous voulez. Ils ont
gagné.
Voilà, cette espèce de mafia qui ne dit pas son nom.
Quand même. Il y a plus d'adjoints que de ministres.
A été reconduite avec Madame Pulvar aux affaires étrangères, ça va avoir de la gueule.
Relation internationale.
Monsieur Lavrov n'a qu'à bien se tenir. On a vraiment quelqu'un là de capé pour le poste. J'avais lu qu'elle devait avoir un poste d'adjoint à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Un bel emploi fictif. Finalement, je ne sais pas si quelqu'un a hérité de ce truc, mais bon, voilà. Moi, de toute façon, la gauche municipale, si vous voulez, pour moi, c'est la lie de l'humanité. Donc, j'ai pas grand-chose à ajouter.
Flora, pour tempérer un peu, peut-être.
C'est vrai que les intitulés sont curieux quand même.
Bah non, mais on parle de la capitale de la France et d'une ville qui rayonne dans le monde entier, qui a organisé par exemple les Jeux Olympiques récemment. Oui, Paris a besoin d'adjoints et je vois pas pourquoi Audrey Pulvar se fait insulter ce matin sur notre plateau gratuitement. Je vois pas ce qu'elle a fait, la pauvre Audrey Pulvar. Et je vois pas non plus pourquoi. Je vois pas non plus pourquoi une délégation au racisme et à l'antisémitisme dans une ville où par exemple on a entendu mort aux Juifs dans des manifs. Récemment, c'est absurde.
Je vois pas
pourquoi avoir une adjointe Madame Bou au périscolaire dans une ville où il y a un scandale sur le périscolaire, c'est inutile. Ma conclusion, c'est que quoi que fasse la mairie de Paris, vous serez toujours là pour les insulter sans aucune raison et aucun motif.
Non, s'ils avaient réduit le nombre d'adjoints à 10, on aurait trouvé ça très bien, on aurait dit bravo.
Maintenant que vous pouvez les insulter, ils ont pris plus de 10% à Rachida Dati il y a une semaine, donc je pense que les Parisiens ne sont pas d'accord avec vous
et
qu'ils ont gagné avec la meilleure majorité possible.
Ben, je ne suis pas sûr que les Parisiens s'attendaient à des intitulés aussi curieux, parce qu'il y a une adjointe à la promesse républicaine, je ne sais pas ce que ça veut dire, il y a un adjoint à l'outre-mer à Paris, un adjoint qui est en charge des comptes rendus de mandat. Est-ce que, sincèrement, dans la journée, ça t'occupe toute ta journée, ça? Parce que c'est quand même des postes, on plaisante, mais c'est des postes à 3 000-4 000 euros, avec derrière un secrétariat, avec des avantages, un chauffeur.
Il y a une flotte communale,
et ils peuvent utiliser un chauffeur, ils ont des défraiements. Enfin, tu vois, tout ça, dans une ville qui est surendettée, c'est normal que Jean-Loup s'interroge sur le fait qu'il y ait pas de volonté, alors que, d'ailleurs, Emmanuel Grégoire avait dit le contraire, hein. Il avait dit qu'il réduirait les frais, là, visiblement, pas là. Alors, pas sur ça.
Oui, moi, je vais donner mon avis. Alors déjà, sur le périscolaire, j'étais un peu étonné de ce choix, parce que je pensais que la mairie de Paris nommerait plutôt Émile Louis, parce que ça aurait été dans la continuité de la politique menée jusque-là. Voilà, donc bon, moi j'aurais trouvé que c'était...
Pas caricatural du tout.
Non, dans la cohérence. En cohérence et en responsabilité, ce choix aurait été dans la droite ligne du mode de gestion choisi jusque-là. Bon, mais... Ça, c'est le premier point. Deuxième point, écoute, on parle quand même d'une ville qui est surendettée, avec une dette de 12 milliards d'euros, et qui risque d'être mise sous tutelle. On évoque cette possibilité. C'est peut-être le moment, un peu, de faire quelques économies. Surtout quand tu as nos auditeurs, comme justement Rodolphe, ce chef d'entreprise qui était pris à la gorge et qui nous appelait pour dire on en a marre de payer des impôts pour nourrir une sphère publique obèse avec de l'argent qui est jeté par les fenêtres. On est à Paris, est-ce que c'est normal, avant, sous la précédente équipe, qu'il y ait une adjointe à l'agriculture dans la ville de Paris? Est-ce que là, c'est normal?
Est-ce que c'est normal
qu'il y ait une adjointe à l'outre-mer?
En tout cas, ils ont enlevé le mot agriculture, puisqu'on retrouve
les
quand
Parisiens,
même...
Là où Flora a raison sur un point, c'est qu'après tout, les Parisiens l'ont voulu. Donc moi, je propose que tous les gens qui ont voté Dati soient dispensés d'impôts et qu'on fasse porter la charge de l'impôt sur tous ceux qui ont voté Grégoire.
Oui, bah, voilà, on, ça serait. On quitte la démocratie, en fait, on coupe le pays en deux. On fait, dans ce cas, ceux qui ont perdu l'élection ne payent plus leurs impôts. Bah, donc, oui, bon, bah, dans ce cas, ceux qui sont pour la peine de mort ont le droit de tuer leur voisin.
Le secrétaire d'État.
En pratique, Jean-Loup, c'est le contraire.
Non, mais quittons la démocratie.
Les Parisiens qui ont voté Dati qui vont payer l'impôt pour ceux qui ont voté Grégoire.
En fait, ça s'appelle une majorité, ça s'appelle la démocratie. Mais bon.
Là, malheureusement, c'est
sûr que Nicolas est à l'échelle du pays.
Allez, on enchaîne avec une exclue RMC. 200 000 Français se sont reconvertis dans l'artisanat en 2023. On s'en fout pas. Jean-Loup.
On s'en fout pas.
Charles.
On ne s'en fout pas.
Et Flora.
On s'en fout pas.
C'est une étude de la Chambre des métiers et de l'artisanat dévoilée en exclu par RMC. Près de 200 000 personnes ont sauté le pas. Principalement, là, la raison évoquée, une quête de sens, Flora.
Bah, c'est très intéressant parce que sous les radars, nous, on parle de tout ce qui va mal dans le pays toute la matinée. Et c'est normal parce que c'est ce qui intéresse souvent les gens. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont bien. Et notamment le fait que les Français sont en quête de sens. Il y a une grande mutation qui est en cours dans les métiers, dans les professions depuis le Covid. Beaucoup de personnes pendant le Covid se sont rendues compte que leur métier faisait pas sens ou leur plaisait pas. Et sont en train de se reconvertir. Il y a cette étude-là, mais il y a aussi beaucoup d'études qui montrent que les jeunes savent beaucoup mieux ce qu'ils veulent faire dans la vie, vont beaucoup plus vers des métiers qui font sens pour eux. Et c'est une très bonne nouvelle, notamment parce que l'artisanat, ça permet de relocaliser des professions en France. Ça permet aussi de déployer nos savoir-faire. Et donc, c'est une très bonne nouvelle. Et en fait, je crois que dans le monde du travail, il y a aussi beaucoup, beaucoup de bonnes nouvelles et qu'on n'en parle pas assez.
Charles.
Oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Je pense que ça va faire monter le ressentiment antifiscal en France, puisque les artisans sont des Nicolas de la première heure. Ils font partie vraiment des gens qui sont le plus harcelés par l'État et auxquels on vole le plus le fruit de leur travail. Mais effectivement, moi, je ne peux que me réjouir que les Français soient de plus en plus nombreux à s'éloigner des bullshit jobs et de ce qui était très à la mode. Pendant un temps, on avait l'impression que tout le monde travaillait dans la com, tout le monde travaillait dans le marketing.
Bah parce que c'est aussi des ensuite, métiers qui seront peut-être moins menacés par l'intelligence artificielle.
Tout le monde
aussi
travaillait dans la prod, etc. Bon, et là, au moins, on a des vraies choses, palpables, sérieuses, existantes, si vous voulez. Donc, je pense que c'est, oui, je pense que c'est un mouvement plutôt positif.
Jean-Loup, tu vas te reconvertir.
Tu deviendras artisan.
Bah, je viens d'une famille d'artisans, donc je ne peux que me réjouir.
Dans quel secteur,
de cette situation horlogerie,
les pompes funèbres.
Je croyais
que c'était les pompes
donc,
funèbres.
Donc horlogerie, plomberie.
Mise en bière sous une seule
une seule voilà et donc
bon ami studio
exactement oui je ne peux que me réjouir de cette situation et en effet
reconvertissent beaucoup
oui aussi
Barbara ça fait 10 ans déjà
en effet de voir l'effondrement de tous les emplois ce que j'appelle le tertiaire à la con. Et donc de voir tout l'effondrement des emplois de tertiaire à la con. En effet, les cabinets, on avait beaucoup parlé du scandale des cabinets de conseil. Moi, je préfère un bon plombier qu'un petit con de chez McKinsey.
Non, mais
voilà. Pourquoi insulter
quelle vision caricaturale.
Justement, puisqu'on parle artisanat, demain nous serons au salon Global Industrie à Villepinte avec le ministre de l'Industrie, tous les chefs d'entreprise. Rendez-vous demain. Allez, dans un instant, suite des GG.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.